Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour des lectures en liberté et nous reprenons la lecture du roman de Georges Simenon, Le chien jaune. Quatre hommes transportaient le blessé dans une pièce du fond où ils l'étendaient sur un canapé. Le docteur donnait des ordres. On entendait dehors la voix du maire qui questionnait « Le commissaire est ici ?» Maigret alla au-devant de lui, les deux mains dans les poches. « Vous avouerez, commissaire ?» Mais le regard de son interlocuteur était si froid que le maire perdit un instant contenance. « C'est notre homme qui a fait le coup, hein, n'est-ce pas ?»«
Non. »«
Mais qu'en savez-vous ?»«
Je le sais parce que, au moment où le crime a été commis, je le voyais à peu près aussi bien que je vous vois. »«
Et vous ne l'avez pas arrêté ?»«
Non. »«
On me parle aussi d'un gendarme assailli. »«
C'est exact. »
« Vous rendez-vous compte des répercussions que de pareils drames peuvent avoir ?»« Mais enfin !» C'est depuis que vous êtes ici que... »
Maigret décrochait le récepteur du téléphone.
« Donnez-moi la gendarmerie, mademoiselle. »
« Oui, merci. »
« Allô, la gendarmerie ? »
« C'est le brigadier lui-même. Allô ?
Ici le commissaire Maigret. »
« Le docteur Michou est toujours là, bien entendu. »
« Vous dites ?»«
Oui, allez, vous en assurez quand même.
Comment ?»«
Il y a un homme de garde dans la cour. Bah, très bien, j'attends. »«
Vous croyez que c'est le docteur qui ?»«
Rien du tout. Je ne crois jamais rien, monsieur le maire. »«
Allô ?»«
Oui. »«
Il n'a pas bougé. »«
Bah, merci. »«
Vous dites qu'il dort. »«
Très bien. »«
Allô ?»
Non, non, rien de spécial. »
Des gémissements arrivaient de la pièce du fond, d'où une voix ne tarda pas à appeler « Commissaire !»
C'était le médecin, qui essuyait ses mains encore savonneuses à une serviette.
« Vous pouvez l'interroger. La balle n'a fait qu'effleurer le mollet, il y a plus de peur que de mal. Il faut dire aussi que l'hémorragie a été assez forte. »
Le douanier avait les larmes aux yeux. Il rougit quand le docteur poursuivit.
Tout son effroi vient de ce qu'il croyait qu'on lui couperait la jambe, alors que dans 8 jours, il n'y paraîtra plus.
Le maire était debout dans l'encadrement de la porte.
Racontez-moi comment c'est arrivé, dit doucement Maigret en s'asseyant au bord du canapé. Ne craignez rien.
Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur.
Je ne sais pas, mais encore.
« Aujourd'hui, je finissais ma faction à 10 heures. J'habite un peu plus loin que l'endroit où j'ai été blessé. »«
Vous n'êtes donc pas rentré chez vous directement ?»«
Non, j'ai vu qu'il y avait encore de la lumière au café de l'amiral. »« J'ai eu envie de savoir où les choses en étaient. Je vous jure que ma jambe me brûle. »«
mais non, » affirma le médecin.
« Puisque je vous dis... »«
Enfin, du moment que ce n'est rien. »«
Donc j'ai bu un demi au café. » Il y avait seulement des journalistes et je n'ai même pas osé les questionner.
Qui vous a servi ?
Une femme de chambre, je crois. Je n'ai pas vu Emma.
Ensuite ?
J'ai voulu rentrer chez moi. Je suis passé devant le corps de garde où j'ai allumé ma cigarette à la pipe de mon collègue. Bah, j'ai suivi les quais, j'ai tourné à droite, il n'y avait personne. La mer était assez belle. Tout à coup, comme je venais à peine de dépasser un coin de rue, j'ai senti une douleur à la jambe avant même d'entendre le bruit de la détonation. C'était comme le choc d'un pavé que j'aurais reçu en plein mollet. Je suis tombé. J'ai voulu me relever, quelqu'un courait, ma main a rencontré un liquide chaud et je ne sais pas comment cela s'est fait, mais j'ai tourné de l'œil. J'ai cru que j'étais mort. Quand je suis revenu à moi, le fruitier du coin ouvrait sa porte et n'osait pas avancer. C'est tout ce que je sais.
Vous n'avez pas vu la personne qui a tiré?
Bah ben non, j'ai rien vu. Cela ne se passe pas comme on croit, le temps de tomber, et puis surtout, quand j'ai retiré ma main pleine de sang.
Vous ne vous connaissez pas d'ennemis?
Même pas. Il n'y a que 2 ans que je suis ici. Je suis originaire de l'intérieur du pays, et je n'ai jamais eu l'occasion de voir des contrebandiers.
Vous rentrez toujours chez vous par ce chemin?
Non, c'est le plus long. Mais je n'avais pas d'allumette et je suis allé au corps de garde, tout exprès, pour allumer ma cigarette. Alors, au lieu de prendre par la ville, j'ai suivi les quais.
C'est plus court, par la ville?
Ben, un peu. Si bien que quelqu'un qui aurait vu que vous sortiez du café et que vous gagniez les quais aurait eu le temps d'aller se mettre en embuscade.
Ben, sûrement. Mais pourquoi?
Je n'ai jamais d'argent sur moi. On n'a pas essayé de me voler.
Vous êtes certain, commissaire, que vous n'avez pas cessé de voir votre vagabond pendant toute la soirée?
Il y avait quelque chose de pointu dans la voix du maire. Le roi entrait, un papier à la main.
Un télégramme que la poste vient de téléphoner à l'hôtel, c'est de Paris.
Et Maigret lut. Sûreté générale à commissaire Maigret, Concarneau.
Jean Goyard, dit Servière, dont avait envoyé signalement, arrêté ce lundi soir, 8h, hôtel Bellevue, rue Le Pic à Paris, au moment où il s'installait, chambre 15. A avoué être arrivé de Brest par train de 6h, proteste innocence et demande être interrogé sur le fond en présence avocat. Attendons instruction.
Vous conviendrez peut-être qu'il est temps, commissaire, que nous ayons un entretien sérieux.
Le maire avait prononcé ces mots avec une déférence glacée. Et l'inspecteur Leroy ne connaissait pas encore assez Maigret pour juger de ses émotions d'après sa façon de rejeter la fumée de sa pipe. Des lèvres entrouvertes du commissaire, ce fut un mince filet gris qui sortit lentement, tandis que les paupières avaient 2 ou 3 battements. Puis Maigret tira son calepin de sa poche, regarda autour de lui le pharmacien, le docteur, les curieux.
« À vos ordres, monsieur le maire, voici. »
« Si vous voulez venir prendre une tasse de thé chez moi, » se hâta d'interrompre le maire, « j'ai ma voiture à la porte, j'attendrai que vous ayez donné les ordres nécessaires. »«
Quels ordres ?»«
L'assassin, le vagabond, cette fille. »«
Ah oui ?»
Eh bien, si la gendarmerie n'a rien de mieux à faire, qu'elle surveille les gares et les environs.
Il avait son air le plus naïf.
Quant à vous, le roi, télégraphiez à Paris qu'on nous expédie Goyard et allez vous coucher.
Il prit place dans la voiture du maire, que conduisait un chauffeur en livrée noire. Un peu avant les sables blancs, on aperçut la villa bâtie à même la falaise, ce qui lui donnait un petit air de château féodal. Des fenêtres étaient éclairées. Pendant la route, les deux hommes n'avaient pas échangé 2 phrases.
« Permettez que je vous montre le chemin. »
Le maire abandonna sa pelisse aux mains d'un maître d'hôtel.
« Madame est couchée ? » ?»«
Elle attend monsieur le maire dans la bibliothèque. »
On l'y trouva en effet. Bien qu'âgée d'une 40aine d'années, elle paraissait très jeune, à côté de son mari qui en avait 65. Elle adressa un signe de tête au commissaire.
« Eh bien ?»
Très homme du monde, le maire lui baisa la main qu'il garda dans la sienne tandis qu'il disait « Oh, rassurez-vous,
un douanier légèrement blessé, et j'espère qu'après la conversation que nous allons avoir, le commissaire Maigret et moi, cet inadmissible cauchemar prendra fin. »
Elle sortit dans un froissement de soie. Une portière de velours retomba. La bibliothèque était vaste. les murs recouverts de belles boiseries, le plafond à poutres apparentes, comme dans les manoirs anglais. On apercevait d'assez riches reliures, mais les plus précieuses devaient se trouver dans une bibliothèque close, qui occupait tout un pan du mur. L'ensemble était d'une réelle somptuosité, sans faute de goût, le confort parfait. Bien qu'il y eût le chauffage central, des bûches flambaient dans une cheminée monumentale. Aucun rapport avec le faux luxe de la villa du docteur. Le maire choisissait parmi des boîtes de cigares, en tendait une à Maigret. « Merci, si vous le permettez, je fumerai ma pipe. Asseyez-vous, je vous prie, vous prendrez du whisky ?» Il pressa un timbre, alluma un cigare. Le maître d'hôtel vint les servir. Et Maigret, peut-être volontairement, avait l'air gauche d'un petit bourgeois reçu dans une demeure aristocratique. Ses traits semblaient plus épais, son regard flou. Son hôte attendit le départ du domestique. « Vous devez comprendre, commissaire, qu'il n'est pas possible que cette série de crimes continue. Voilà, voyons, voilà 5 jours que vous êtes ici, et depuis 5 jours... » Maigret tira de sa poche son calepin de blanchisseuse recouvert de toile cirée. « Vous permettez ? » interrompit-il. « Vous parlez d'une série de crimes. Or, je remarque que toutes les victimes sont vivantes, sauf une. Une seule mort, celle de M. Le Pommeret. Pour ce qui est du douanier, vous avouerez que si quelqu'un avait vraiment voulu attenter à sa vie, il ne l'aurait pas atteint à la jambe. Vous connaissez l'endroit où le coup de feu a été tiré. L'agresseur était invisible. Il a pu prendre tout son temps. À moins qu'il n'ait jamais tenu un revolver. » Le maire regarda avec étonnement et dit en saisissant son verre. « Si bien que vous prétendez qu'on a voulu le blesser à la jambe, du moins jusqu'à preuve du contraire. A-t-on voulu atteindre M. Mostaghen à la jambe aussi ?» L'ironie perçait. Les narines du vieillard frémissaient. Il voulait être poli, rester calme, parce qu'il était chez lui, mais il y avait un sifflement désagréable dans sa voix. Maigret, avec l'air d'un bon fonctionnaire qui rendait compte à un supérieur, poursuivit. « Si vous le voulez bien, nous allons reprendre mes notes une à une. Je lis à la date du vendredi 7 novembre, une balle est tirée par la boîte aux lettres d'une maison inhabitée dans la direction de M. Mostaghen. Vous remarquerez tout d'abord que personne, pas même la victime, ne pouvait savoir qu'à un moment donné, M. Mostaghen aurait l'idée de s'abriter sur un seuil pour allumer son cigare. Un peu de vent en moins, et le crime n'avait pas lieu. Or, il y avait néanmoins un homme armé d'un revolver derrière la porte. Ou bien c'était un fou, ou bien il attendait quelqu'un qui devait venir. » Maintenant, souvenez-vous de l'heure, 11 heures du soir. Toute la ville dort, hormis le petit groupe du café de l'amiral. Je ne conclus pas. Voyons les coupables possibles. Messieurs Le Pommeret et Jean Servière ainsi qu'Emma sont hors de cause puisqu'ils se trouvaient dans le café.
C'était en l'an 1902, quand Jean de la Providence de Dieu ouvrit la porte sans carte blanche. Son front était cuit par les soleils et les soucis, son sac était lourd sur sa hanche. Mais la mer du Nord s'engouffra dans le bar où tenions nos états. Il y avait Machin, Chose et Langlois, il y avait Française et c'était moi. Nous étions tous les cinq à l'aise dans le vieux bar de l'Irlandaise. En ce temps-là, il y avait l'Anglois, machin et chose, l'Irlande et moi. Le vent qui soufflait de la mer nous a pris dans ses bras de fer pour en emporter deux en douce. Il ne resta dans le cabaret après qu'ils se furent taillés, car ils avaient le diable à leur trousse, que l'Anglois, moi et ce curieux, gens de la providence de Dieu. Y avait donc Jean, etc. L'Anglois et la môme qu'était moi. L'Anglois t'aurait fauché mille les voiles pour retrouver sa bonne étoile. Alors nous ne fûmes plus que deux, moi et la providence de Dieu. On me nomme aussi Saint Jean Bouche d'Or, me dit ce grand matelot du Nord, et quand je chante ma complainte, au petit jour passé minuit, ici ou là comme un défi, toutes les garces croient des saintes. Puis il disparut en chantant, autant on emporte le vent. Y avait machin, chose et l'Anglois, maintenant il n'y avait plus que moi. J'étais seul devant les bouteilles, elle m'offrait d'autres merveilles. En souvenir de Jean, j'en bus deux, et tout le reste à la grâce de Dieu. Que sont devenus mes copains? À dire vrai, je n'en sais plus rien. L'Irlandaise a fermé boutique, machin et choses ont disparu dans le décor des inconnus. C'est la faute au vent hystérique. Il fit entrer ce Jean de Dieu, sa providence et ses bons voeux. Allez, bistrot des ports de mer, lorsque le vent pleure en hiver et vous prend pour toute la vie, avec ses orgues de barbarie. C'était en l'an 1902, au rendez-vous des amoureux.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons au roman de Georges Simenon, Le chien jaune, après cette habituelle pause musicale. Reste le docteur Michou, sorti un quart d'heure plus tôt, et le vagabond aux empreintes formidables, plus un inconnu que nous appellerons X. Nous sommes d'accord. Ajoutons en marche que M. Mostaguen n'est pas mort, et que dans 15 jours il sera sur pied. Passons au deuxième drame. Le lendemain, samedi, je suis au café avec l'inspecteur Leroy. Nous allions prendre l'apéritif avec messieurs Michou, le Pommeret et Jean Servière quand le docteur est pris de soupçons en regardant son verre. L'analyse prouve que la bouteille de Pernod est empoisonnée. Coupable possible, messieurs Michou, le Pommeret, Servière, la fille de salle Emma, le vagabond, qui a pu au cours de la journée pénétrer dans le café sans être vu, et enfin notre inconnu que nous avons désigné sous le nom d'X. Continuons. Le dimanche matin, Jean Servière a disparu. Sa voiture est retrouvée sanglante, non loin de chez lui.
Avant même cette découverte, le phare de Brest a reçu un compte-rendu des événements bien faits pour semer la panique à Concarneau. Or, Servières est vu à Brest d'abord, à Paris ensuite, où il semble se cacher et où il se trouve évidemment de son plein gré. Un seul coupable possible, Servières lui-même. Le même dimanche, M. Le Pommeray prend l'apéritif avec le docteur, rentre chez lui, y dîne et meurt après des suites d'un empoisonnement par la strychnine. Coupable possible, au café, si c'est là qu'il a été empoisonné, le docteur, Emma et enfin notre X. Ici, en effet, le vagabond doit être mis hors de cause car la salle n'a pas été vide un seul instant et ce n'est plus la bouteille qui a été empoisonnée mais un seul verre. Si le crime a été commis dans la maison de Le Pommeray, coupable possible, sa logeuse, le vagabond et notre X, Saint-Piternel. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons au bout. Ce soir, un douanier reçoit une balle dans la jambe alors qu'il passe dans une rue déserte. Le docteur n'a pas quitté la prison où il est surveillé de près. Le Pommeray est mort. Servières est à Paris, entre les mains de la Sûreté Générale. Emma et le vagabond, à la même heure, sont occupés sous mes yeux à s'éteindre, puis à dévorer un poulet. Donc, un seul coupable possible, X. C'est-à-dire un individu que nous n'avons pas encore rencontré au cours des événements. Un individu qui peut avoir tout fait, comme il peut n'avoir commis que ce dernier crime. Celui-là, nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas son signalement, une seule indication, il avait intérêt cette nuit à provoquer un drame, un intérêt puissant, car ce coup de feu n'a pas été tiré par un rôdeur. Maintenant, ne me demandez pas de l'arrêter, car vous conviendrez, monsieur le maire, que chacun dans la ville, que tous ceux surtout qui connaissent les principaux personnages mêlés à cette histoire et qui en particulier fréquentent au café de l'amiral, sont susceptibles d'être cet X. Vous-même, ces derniers mots furent dits d'un ton léger en même temps que Maigret se renversait dans son fauteuil et tendait les jambes vers les bûches. Le maire n'avait eu qu'un tressaillement. « J'espère que ce n'est qu'une petite vengeance !» Alors Maigret se leva soudain, secoua sa pipe dans le foyer, prononça en arpentant la bibliothèque. « Même pas !» Vous voulez des conclusions? Eh bien, en voilà. J'ai tenu simplement à vous montrer qu'une affaire comme celle-ci n'est pas une simple opération de police qu'on dirige de son fauteuil à coups de téléphone. Et j'ajouterai, monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, que quand je prends la responsabilité d'une enquête, je tiens avant tout à ce qu'on me foute la paix. C'était sorti tout à trac. Il y avait des jours que cela couvait. Maigret, peut-être pour se calmer, but une gorgée de whisky, regarda la porte en homme qui a dit ce qu'il avait à dire et qui n'attend plus que la permission de s'en aller. Son interlocuteur resta un bon moment silencieux à contempler la cendre blanche de son cigare. Il finit par la laisser tomber dans un bol de porcelaine bleue, puis il se leva lentement, chercha des yeux le regard de Maigret. « Écoutez-moi, commissaire. » Il devait peser ses mots, car ceux-ci étaient espacés par des silences. « J'ai peut-être eu tort, au cours de nos brèves relations, de manifester quelque impatience. » C'était assez inattendu. Surtout dans ce cadre où le vieillard avait l'air plus rassé que jamais avec ses cheveux blancs, son veston brodé de soie, son pantalon gris aux plis rigides. Je commence à vous apprécier à votre juste valeur. En quelques minutes, à l'aide d'un simple résumé des faits, vous m'avez fait toucher du doigt le mystère angoissant d'une complexité que je ne soupçonnais pas, qui est à la base de cette affaire. J'avoue que votre inertie en ce qui concerne le vagabond n'a pas été sans m'indisposer contre vous. » Il s'était approché du commissaire dont il toucha l'épaule. « Je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur.
J'ai de lourdes responsabilités, moi aussi. » Il eût été impossible de deviner les sentiments de Maigret, qui était occupé à bourrer une pipe de ses gros doigts. Sa blague à tabac était usée. Son regard errait à travers une baie sur le vaste horizon de la mer. « Quelle est cette lumière ? » questionna-t-il soudain. « Ben, c'est le phare. Non, non, je parle de cette petite lumière à droite. La maison du docteur Michou. La servante est donc revenue ? Non. C'est Madame Michou, la mère du docteur, qui est rentrée cet après-midi. Vous l'avez vue ? » Maigret crut sentir une certaine gêne chez son hôte. C'est-à-dire qu'elle s'est étonnée de ne pas trouver son fils. Elle est venue s'informer ici. Je lui ai appris l'arrestation en expliquant que c'était plutôt une mesure de protection. Car c'est bien cela, n'est-ce pas ? Elle m'a demandé l'autorisation de lui rendre visite en prison. À l'hôtel, on ne savait pas ce que vous étiez devenu. J'ai pris sur moi de permettre cette visite. Madame Michou est revenue peu avant le dîner pour avoir des nouvelles. C'est ma femme qui l'a reçue et qui l'a invitée à dîner. Elles sont amies ? Si vous voulez, plus exactement des relations de bon voisinage. L'hiver, il y a très peu de monde à Concarneau. Maigret reprenait sa promenade à travers la bibliothèque. Vous avez donc dîné à trois ? Oui, c'est arrivé assez souvent. J'ai rassuré comme j'ai pu Madame Michou, qui était très impressionnée par cette démarche à la gendarmerie. Elle a eu beaucoup de mal à élever son fils, dont la santé n'est pas brillante. Il n'a pas été question de Le Pommeret et de Jean Servière. Elle n'a jamais aimé Le Pommeret. Elle l'accusait d'entraîner son fils à boire. Le fait est que... Et Servière ? Elle le connaissait moins, il n'appartenait pas au même monde. Un petit journaliste, une relation de café, si vous voulez, un garçon amusant. Mais par exemple, on ne peut pas recevoir sa femme dont le passé n'est pas irréprochable. C'est la petite ville, commissaire. Il faut vous résigner à cette distinction. Elle vous explique en partie mes humeurs. Vous ignorez ce que c'est que d'administrer une population de pêcheurs tout en tenant compte des susceptibilités des patrons et enfin d'une certaine bourgeoisie qui... À quelle heure Madame Michou est-elle partie d'ici ? Vers 10 heures, ma femme l'a reconduite en voiture. Et cette lumière nous prouve que Madame Michou n'est pas encore couchée. C'est son habitude, la mienne aussi. À un certain âge, on n'a plus besoin de beaucoup de sommeil. Très tard dans la nuit, je suis encore ici à lire ou à feuilleter des dossiers. Les affaires des Michou sont prospères. Nouvelle gêne à peine marquée. Pas encore. Il faut attendre que les sables blancs soient mis en valeur. Étant donné les relations de Madame Michou à Paris, cela ne tardera pas. De nombreux lots sont vendus, au printemps on commencera à bâtir. Au cours du voyage qu'elle vient de faire, elle a à peu près décidé un banquier dont je ne puis vous dire le nom à construire une magnifique villa au sommet de la côte. Encore une question, monsieur le maire. À qui appartenaient auparavant les terrains qui font l'objet du lotissement ? Son interlocuteur n'hésita pas. À moi ! C'est un bien de famille, comme cette villa. Il n'y poussait que de la bruyère et des genêts. Quand les Michou ont eu l'idée... À ce moment, la lumière au loin s'éteignit. Encore un verre de whisky, commissaire ? Bien entendu, je vous ferai reconduire par mon chauffeur. Nous arrêtons là pour ce soir... La lecture du roman de Georges Simenon, Le Chien Jaune. Nous nous retrouverons demain pour la suite. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.